Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le lundi 20 décembre. C'est l'un des albums emblématiques de Pink Floyd. C'est aussi une fierté française, car The Wall a en partie été enregistré dans le studio Miraval, dans le Var, en 1979. Miraval, oui, oui, comme le château qui appartient à la superstar hollywoodienne Brad Pitt, inutilisé pendant presque 20 ans. Ce studio, qui se trouve donc sur son domaine, va reprendre du service l'été prochain.
Et on imagine que c'est pas Brad Pitt qui va s'installer derrière les platines.
Et pourtant, figurez-vous qu'il est fou de musique, ce studio. C'est un rêve qu'il nourrit depuis longtemps. Mais non, effectivement, C'est le comédien, s'est associé à un jeune et talentueux producteur français, Damien Quintard. Le studio Miraval, avec son équipement vintage, Sadeco 70s, qui se transforme en une nouvelle fabrique de son made in France, où appareils analogiques et nouvelles technologies ne vont faire plus qu'un. On en parlera avec Brad Pitt peut-être une prochaine
Brad Pitt.
Fois,
ah, non,
mais
non.
Damien Quintard qui parle français.
C'est bien aussi,
on
c'est
sent
très
une
bien.
Immense déception. Je ne sais pas pourquoi.
Damien Quintard, excellent, à 6h moins le quart, restez là. Dans l'actualité également ce matin.
Cette question, immense déception aussi. Le variant Omicron va-t-il gâcher les fêtes à Noël? Les Pays-Bas reconfinent et la légère décrue de la cinquième vague en France ne pourrait être que de courte durée. Voilà pourquoi il ne vous aura pas échappé que l'humeur générale est à la morosité, à la déprime. On est fatigué, affecté par cette interminable pandémie, cet ascenseur émotionnel permanent. Cinquième vague, bientôt la sixième, troisième dose, bientôt la quatrième. Le Covid est un tunnel d'autant plus difficile à supporter quand il remet en cause nos fêtes de fin d'année. Est-ce grave, docteur? Comment retrouver de l'allant? On en parle à 6h10 avec la psychiatre Marion Leboyer. Un bon remède pour se remonter le moral, c'est la musique et votre partition, Omeline.
Ah bah oui, et une chanson de Noël pour lancer cette semaine de fête. L'une des plus emblématiques des années 80, Last Christmas, signée George Michael, qui a disparu le jour de Noël, il y a 5 ans, la partition à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Très bon début de matinée à tous. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonne nouvelle, le temps reste calme aujourd'hui.
Oui, comme la semaine dernière, on a un temps anticyclonique encore, ça se poursuit. Alors, il faut savoir que pour ce début de semaine de Noël, on va avoir le même schéma que ces derniers jours, c'est-à-dire beaucoup de brouillard le matin et un ciel dégagé l'après-midi. Alors ce matin, soyez très prudents. Des côtes de la Manche jusqu'à l'Auvergne et même jusqu'à la région Rhône-Alpes. Là, on a une grande diagonale qui coupe la France. Et dans toutes ces régions, on a beaucoup de brouillard. Dans le sud-ouest aussi, en Nouvelle-Aquitaine, en région toulousaine, les nuages bas sont très épais. Ce matin, soyez vraiment prudents sur la route. Au bord de la Méditerranée, on a déjà un ciel bien dégagé. Et puis cet après-midi, comme les jours précédents, on a un ciel bien dégagé sur toute la moitié sud du pays, du beau soleil. Au nord de la Loire, c'est un peu plus compliqué. Entre le nord et le centre-est, là, on a quelques passages nuageux. Les températures, elles baissent. Couvrez-vous ce matin. Le vent d'est souffle et on a des gelées, moins 3 à 2 degrés sur les régions centrales, 8 degrés en Corse ce matin, puis cet après-midi seulement 3 à 6 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 14 dans le sud-ouest. Il fait froid.
C'est noté. Merci beaucoup Anissa Dadi. On se couvre donc. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Ça implique que les personnes non vaccinées vivent malheureusement un quasi-confinement.
Du pass sanitaire au pass vaccinal, il n'y a qu'un pas que veut sauter l'exécutif avant fin janvier. Il faudra le présenter pour aller au restaurant ou au cinéma et peut-être aussi pour aller au bureau. Ministre du Travail et partenaires sociaux en discutent aujourd'hui. Une mesure, vous l'entendrez, loin de faire l'unanimité. La voiture plutôt que le train pour rejoindre ses proches, des vacances en France et moins de festivités. Voilà le réveillon typique que nous allons passer. Merci la cinquième vague. C'est le résultat d'une enquête qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin. Et puis Zinedine Zidane, nouvel entraîneur du PSG, c'est non, répond sur Europe 1 Leonardo, directeur sportif du club de la capitale. Le Brésilien, très rare dans les médias, s'est confié dans nos studios.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Près de 3000 patients en réanimation, plus de 50 000 cas de Covid tous les jours. La cinquième vague de l'épidémie se révèle violente. Mais Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ne privilégie pas un prolongement des vacances scolaires après le 3 janvier.
Parce que la stratégie de l'exécutif, c'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal.
Oui, il espère faire passer le projet de loi d'ici fin janvier, comme l'a annoncé hier soir Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Un pass qui pourrait devenir obligatoire en entreprise comme en Italie ou en Allemagne. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui pour en discuter. Et la mesure est loin de faire l'unanimité au CNTR.
Devoir montrer patte blanche tous les matins pour franchir la porte du bureau, inefficace et surtout bien trop compliqué à mettre en place sur le terrain, argumente Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière.
Qui va contrôler et comment, dans les grandes entreprises, il y a effectivement un accueil à l'entrée des établissements, mais dans les très petites entreprises, chez un artisan, une profession libérale, ça pose plus de problèmes d'application, d'effectivité qu'autre chose, j'en ai l'impression.
Une mesure qui doit être encadrée, limitée, répète Bernard Cohen-Haddad. Pour le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Île-de-France, le contrôle du pass ne doit surtout pas sanctionner les employeurs.
Le chef d'entreprise n'est pas un gendarme. Il ne faut pas que la nouvelle obligation du pass sanitaire puisse faire encourir au chef d'entreprise un risque pénal, un risque financier, un risque de non-contrôle de nos entreprises.
Pour Bernard Cohen-Haddad, comme pour d'autres, l'accent doit être d'abord mis sur le respect des gestes barrières, la limitation au maximum du brassage dans les cantines d'entreprise, avant d'en arriver au contrôle du pass sanitaire.
Océane Théard, la France qui adopte une stratégie diamétralement opposée à celle des Pays-Bas. Le pays est reconfiné depuis hier et jusqu'au 16 janvier. Mais pour Noël et le Nouvel An, les habitants pourront recevoir jusqu'à 4 invités chez eux.
Alors vous l'avez dit, chez nous, pas de restrictions supplémentaires pour l'instant. Mais le Covid redistribue les cartes en matière de déplacement. C'est le résultat d'une enquête Move-It qu'Europe 1 vous révèle ce matin.
Oui, et puis comme l'année dernière, on aura plutôt tendance à privilégier la voiture, faire moins la fête et surtout réduire fortement les déplacements à l'étranger. Ce sont les principaux enseignements, Aurélien Fleureau, de cette enquête menée auprès de 4600 utilisateurs de Move-It.
Oui, et parmi ceux qui ne fêteront pas Noël cette année, pour un tiers, ce sera uniquement à cause de la situation sanitaire. Alors que par ailleurs, 20% expliquent que le nouveau variant va affecter leurs déplacements dans les jours qui viennent. Pour autant, les Français vont bouger pour retrouver leurs proches. 70% des personnes interrogées fêteront Noël, mais c'est un peu moins de 50% qui célébreront le jour de l'an. Des déplacements qui se feront essentiellement en France. Ceux qui ont eu des envies d'évasion ont souvent fini par renoncer, comme l'explique Michael Brami, directeur commercial Europe de Move-It.
Et il y a quand même presque un Français sur deux qui avait prévu de se déplacer à l'étranger ou qui avait l'habitude de se déplacer à l'étranger. Et cette année, annule carrément ses déplacements justement pour faire quelque chose de plus local. On retrouve quelque chose d'encore plus amplifié sur les fêtes de Nouvel An.
Et que ce soit pour Noël ou le jour de l'an, ceux qui se déplaceront le feront en majorité avec leur voiture. Viennent ensuite les transports en commun et pour 17%, ce sera le train ou l'avion. Des résultats à l'image de ce qui a été observé dans la mobilité des Français en 2021. L'automobile, solution numéro 1 et de loin.
Merci Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
5 heures passées de 5 minutes sur Europe 1. On en vient à cette question. Comment indemniser les victimes de pédocriminalité dans l'Église? Après le rapport Sauvé, les diocèses recensent tous les biens qu'ils peuvent céder.
Et l'Église possède des bâtisses exceptionnelles, si bien qu'elles sont inaccessibles pour le commun des mortels, comme le monastère de la Visitation dans le 6e arrondissement de Paris, la résidence officielle de l'archevêque de Paris et la maison de la conférence des évêques de France dans le 7e arrondissement. Ces trois trésors sont estimés à eux seuls à environ 140 millions d'euros. Et à son échelle, le diocèse de Rennes compte débloquer une enveloppe de 500 000 euros. Il s'agira de céder des actifs, rationaliser les dépenses, comme l'explique Mgr Dornelas, archevêque de Rennes.
On a trouvé qu'il était juste d'apporter immédiatement 500 000 euros en nous délestant d'un revenu, ce qui veut dire que nous allons vivre de façon plus simple, nous allons accepter de vivre sans ce confort. Et ça me paraît très juste. Nous avons décidé tout simplement de diminuer les revenus que nous pouvions avoir en cédant des actifs. Et c'est ainsi que dès que j'aurai l'information comme quoi l'instance nationale de reconnaissance et de réparation fonctionnera, j'espère le plus tôt possible, chaque personne victime, je soutiendrai leur présentation à cette instance pour qu'elle puisse être entendue et recevoir l'indemnisation qui leur est due.
Des propos recueillis par notre correspondante dans l'Ouest, Sandrine Prioul.
On prend maintenant la direction de Hong Kong, où hier les urnes sont restées bien vides.
Oui, c'était pourtant un scrutin pour renouveler le conseil législatif de la ville. Problème, seuls les patriotes loyaux envers Pékin, les pro-Chine communistes donc, pouvaient se présenter. Alors les Hongkongais ont boycotté le vote. Ils ne sont que 30% à s'être déplacés. Notre correspondant en Chine, Sébastien Le Belzic.
Notre seul droit, c'est d'écouter le gouvernement et de voter pour lui. Ce commentaire acerbe d'un électeur hongkongais en dit long sur l'ambiance hier dans les bureaux de vote. Un scrutin joué d'avance car les 153 candidats, tous adoubés par la Chine communiste, ont dû donner des gages de loyauté et de patriotisme pour pouvoir se présenter. Résultat, c'est la plus faible participation de l'histoire de Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. La nouvelle administration défend pourtant ce nouveau régime. John Lee Kachu, responsable de l'administration locale.
L'essence de ce système électoral amélioré est l'administration de Hong Kong par des patriotes. Il y avait des traîtres et même des agents de forces étrangères.
Les traîtres en question sont les candidats démocrates interdits de scrutin, des dissidents en prison ou en exil à l'étranger. La nouvelle loi de sécurité nationale interdit non seulement de critiquer la Chine sous peine de prison, mais également d'encourager le vote blanc ou l'abstention. La Chine avait promis que le chef de l'exécutif de Hong Kong serait élu au suffrage universel dès 2017. Des rêves de démocratie définitivement balayés. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et les résultats définitifs sont attendus dans la journée.
On ouvre notre page sport avec, pour commencer, cette cruelle désillusion pour les Bleus au Mondial de handball féminin.
Oui, hein, les Françaises sont tombées en 11 minutes hier en finale face à la Norvège. Résultat, malgré une année exceptionnelle, elles terminent avec l'argent et un score de 22-29.
En foot, des confessions exclusives hier soir sur Europe 1.
Leonardo, le directeur sportif du PSG, était l'invité exceptionnel d'Europe 1 Sport. Entretien d'une heure avec le Brésilien, très rare dans les médias. Il a abordé tous les sujets, Jean-François Pérez, y compris le dossier sensible de l'entraîneur des joueurs de la capitale.
Oui, c'est l'un des postes les plus exposés du foot mondial. Mauricio Pochettino est le sixième entraîneur du PSG depuis l'arrivée du Qatar en 2011. Les résultats sont là, mais la manière laisse à désirer. Leonardo prône la patience et soutient le technicien argentin.
Il est un entraîneur qui était dans le top 5 quand on l'a signé. Il y a une relation avec ses joueurs très proche et très profonde. Il a joué au Paris Saint-Germain. Il y en a un effectif à disposition très important. Je ne vois pas un motif pour être pas optimiste par rapport à ce qu'on peut faire encore cette saison.
Pas de révolution en vue donc, comme l'an passé, quand Thomas Tuchel avait été débarqué à quelques heures de Noël. Sur Europe 1, Leonardo balait l'insistante rumeur Zinedine Zidane sans aucune ambiguïté.
Zidane et Zidane, j'en parle, mais honnêtement, on n'a jamais eu en contact, on n'a jamais eu en pensée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que Pochettino réussit à Paris Saint-Germain et c'est pour ça qu'on a appris.
C'est donc avec l'Argentin en commande que Messi, Mbappé et les autres tenteront de conquérir la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. Un objectif presque obsessionnel pour Leonardo. Quand arrivent les matchs décisifs, conclut-il, nos joueurs ont quelque chose en plus. Je suis convaincu que ça viendra.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Merci à vous Alban Leprince pour ce journal.
Il est 5h09 et ce sont les courses de Thierry Léger, le Paris gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Deauville et mon Paris gagnant sera le 709 Penny Baker. Cette pouliche aux origines américaines s'est déclenchée lorsque son entraîneur Henri-Alex Pantal l'a présentée sur le sable fibré, une surface en parfaite adéquation avec son pédigré. Invaincu sur la PSF, le style de ses trois dernières victoires me permet de vous affirmer qu'elle devrait pouvoir enchaîner un quatrième succès. Alors notez bien, pour cet après-midi à Deauville, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 9, Penny Baker.
Penny Baker, le numéro 9, c'est noté. Merci Thierry Léger et vous revenez dans une petite demi-heure pour les pronostics du Quintet. Excellent début de matinée à tous sur Europe 1. Vous restez avec nous parce que le pressing arrive et il ouvre ses portes dans moins d'une minute.
Et au menu, les natalophobes, les tout premiers hooligans et ces livres qu'on ne trouvera pas sous les sapins. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h11, bon réveil, c'est le pressing du lundi. Nous sommes comme chaque matin, trois à passer en revue la presse du jour. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux et ce mot qui revient en boucle, Omicron, l'exception française, titre Le Parisien. Alors que nous sommes l'un des rares pays à ne pas avoir réinstauré des mesures restrictives pour freiner la diffusion de ce nouveau variant. Les pays se reconfinent, les Pays-Bas se reconfinent, l'Irlande décrète un couvre-feu, mais la France continue de parier sur la vaccination, ajoute de son côté le Figaro. Le Covid tape l'incruste au réveillon, résume pour sa part Libération. On termine avec une éclipse totale, c'est le titre à la une de l'équipe qui revient sur la défaite des handballeuses françaises face aux Norvégiennes hier en finale des championnats du monde. On en parlait dans le journal de 5h. Défaite rageante car les Bleus menaient de 6 buts en première période et tout s'est effondré en 11 minutes lors de la deuxième période. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Vous disiez ou Libé écrivait « Le Covid tape un Christ au réveillon ».
Oui.
Eh bien, certains s'en réjouissent.
Qui sont ces gens ?
Mais oui, parce que vous, Martin, c'est un moment que vous aimez, vous retrouvez en famille autour du sapin, ambiance guirlande et chants de Noël, heureux de se retrouver, des rires, de l'émotion, de l'amour, on croirait presque une comédie sentimentale américaine. C'est un rêve pour beaucoup, mais c'est un cauchemar pour les natalophobes, figurez-vous. Focus.
Les quoi ?
Sur ces angoissés de Noël, les natalophobes, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. On connaît tous des gens qui n'aiment pas Noël. Le côté obligatoire de voir des membres de sa famille qu'on ne fréquente pas dans l'année, et parfois pour de bonnes raisons. Ajouter à ça l'angoisse non négligeable des cadeaux, de faire des cadeaux, trouver une idée pour la cousine de Clermont, un foulard, une bougie, bon, un livre, oui, mais quel livre ? C'est pas facile. Et puis, il y a la séance shopping qui devient un supplice. L'angoisse d'en recevoir aussi des cadeaux. Un médecin raconte que l'un de ses patients paniquait en pensant au fait dès son retour des vacances d'été. C'est un chouille exagéré.
Oui, un peu quand même.
Les souvenirs des réveillons tristes sont souvent plus vivaces, comme cette mère de famille qui explique avoir trop vu ses parents en train de divorcer, faire semblant. Cette année, elle a pris ses billets pour passer des vacances au bord de la mer. Elle évitera ainsi l'hypocrisie qui consiste à se montrer obligatoirement heureux le jour de Noël. Voilà encore cette idée du truc obligé, induit par l'esprit de Noël. Cet esprit de Noël qui, arrosé de champagne, abaisse en plus toutes les inhibitions, comme si ce n'était pas suffisant. Les natalophobes se frottent une fois de plus les mains cette année. Plus la peine de s'embarrasser de justifications, de trouver des excuses bidons. Vous sortez la carte qu'à contact. J'ai mieux, vous sortez la carte positif. Non seulement on ne va pas vous en vouloir, mais en plus, on va vous plaindre. Les conseils des thérapeutes, si l'idée de vous retrouver en famille les 24, les 25 décembre, l'un ou l'autre, ou les deux, ça, si cette idée vous est insupportable, décidez de ne pas fêter Noël du tout. Si vous ne pouvez pas y couper, organisez ensuite un déjeuner entre amis pour débriefer. Le Covid, la revanche des angoissés de Noël, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Ça nous donnerait presque envie de devenir natalophobe.
Presque.
Merci beaucoup, Ambine. Martin, à vous.
Oui, c'était la Coupe de France ce week-end, on y reviendra dans le journal des sports. Un week-end marqué par de nouveaux incidents en tribune, notamment ces images insupportables lors de Paris FC Lyon vendredi soir. Un match qui n'a pas repris, fort heureusement. Et ce matin, je vous emmène aux origines de la violence dans les stades. Ombline, Julien, selon vous, depuis quand les fans de sport se battent en tribune ?
Ouf. Les années... Ouais, j'irais
début du 20e avec l'arrivée du foot, non ?
Raté,
c'est beaucoup plus vieux que ça.
Ah bon ?
Les premières traces de violence dans les stades datent de plus de 2000 ans. C'est ce que nous apprend un article passionnant dans l'Équipe Magazine paru ce week-end. Direction Pompéi, nous sommes en 59 avant Jésus-Christ. Mmh. C'est jour de combat de gladiateurs dans l'amphithéâtre de la ville.
Mon nom est Gladiateur.
Oh ! La vie ! La vie !
Voilà. Extrait du film.
Et là, on tend le pouce vers le bas ou vers le haut.
Exactement.
Pas nous, c'est César.
Alors,
ouais,
ce jour-là,
pouvait le faire, hein.
L'affiche oppose les combattants de Pompéi à ceux de Nucéry, une ville située à peine 20 km. Un vrai derby, selon l'historien Jean-Paul Tullier. D'autant que Nucéry est resté fidèle à Rome quand Pompéi a voulu prendre son autonomie lors de la guerre sociale. Un derby aux dimensions politiques, donc. Dans cet amphithéâtre, 20 000 supporters chauffés à blanc. Comme dans un stade aujourd'hui, le phénomène de supporterisme existait, explique l'historien. On applaudissait certains combattants, ont sifflé les autres. Ils étaient de vraies idoles, comme les joueurs de foot aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé il y a 2080 ans ? Selon les annales de Tacite, tout est parti d'un incident futile. Probablement que les Nucériens ont acclamé un peu trop fort un de leurs champions. Et là, tout a dégénéré, toujours selon Tacite, échange d'invectives, puis jet de pierre, avant les armes, les vraies. Une fresque découverte récemment à Pompéi revient dans le détail sur cette bataille rangée. On y voit des assaillants munis de bâtons s'acharner sur des victimes au sol. On est assez proche des images qu'on a pu voir à Charletti vendredi. Les Pompéiens plus nombreux car à domicile remportent la bataille, faisant quand même plusieurs dizaines de victimes, trop selon l'empereur Néron qui soumet l'affaire au Sénat, et les sanctions sont exemplaires. Écoutez, interdiction d'organiser des combats pendant 10 ans pour Pompéi. Néron ne le sait pas, mais il vient d'inventer le huis clos. Selon plusieurs spécialistes interrogés par l'Équipe, cet incident est la première apparition dans l'histoire des hooligans, même si certains estiment qu'il manque la préméditation de la violence pour vraiment parler de hooliganisme. Fight à Pompéi, les premiers hooligans, c'est à retrouver dans l'Équipe Magazine, et c'est vraiment passionnant.
Ah, c'est chouette.
Peut-être que l'Équipe Magazine pourrait envoyer cet article à la Ligue et à notre gouvernement. Peut-être que ça les inspirerait au niveau des sanctions.
C'est rude comme sanction quand même, 10 ans.
10 ans
hein. Enfin, pour tout le monde en plus, pas que pour les
Oui, mais il faut peut-être ça pour
coupables.
Que ça mette un bon exemple et puis derrière ça roule. On verra.
Avec les gladiateurs ça roule
Non, c'est les têtes qui roulent avec les gladiateurs. Merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article des Échos qui s'intéresse ce matin à un genre littéraire en plein essor malgré des ventes catastrophiques. J'ai nommé Une idée ? Les livres écrits ou du moins signés par des hommes et femmes politiques.
Ah oui,
on en a rarement vu autant sur les étalages des libraires. Alors certes, nous sommes en année préélectorale, mais quand même, que de bouquins de candidats, de chefs de parti, voire de membres du gouvernement.
Donc vous aimez pas celui que je vous ai offert alors ?
Non, pas du tout. Non. C'est lequel d'ailleurs ?
On va pas le nommer.
Ouais. Depuis le début du quinquennat, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a écrit pas moins de 4 livres, ce qui est remarquable, sachant qu'il a eu par ailleurs à affronter la pire crise économique depuis la Grande Dépression de 1929. Mais la palme de la plume la plus productive dans l'exécutif revient assurément à Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, qui en est déjà à 8 ouvrages depuis mi-2017. Ça en fait quasiment un tous les 6 mois. Une sacrée performance qui agace jusqu'à l'Élysée. Les Français vont finir par se dire que les ministres ne foutent rien et qu'ils passent leur temps à écrire des livres. Ce serait agacé Emmanuel Macron il y a quelques semaines, selon le Canard enchaîné. Il faut dire que c'est une exception française, confirme une éditrice. Les éditeurs étrangers sont toujours sidérés, dit-elle, de voir le volume de livres écrits par des politiques que nous publions. D'autant que les probabilités de sortir un best-seller sont, comment dire, infinitésimales. C'est ainsi que Sa façon d'être à moi, le dernier livre de Marlène Schiappa, sorti début octobre, ne s'est écoulé, tenez-vous bien, qu'à 245 exemplaires. Mais ce n'est pas le pire. Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement, n'a vendu que 157 livres de Bienvenue en politique à ceux qui sont tentés de renoncer.
245 exemplaires pour Marlène Schiappa. 150... Renoncer justement, pourquoi les éditeurs ne le font pas, c'est vraiment incroyable, ces ventes sont catastrophiques.
Il y a plusieurs explications. Déjà, comme avec n'importe quel écrivain, les éditeurs font des paris à long terme. Après tout, il n'est pas exclu que Marlène Schiappa devienne un jour présidente de la République. Et là, les ventes ne seront plus les mêmes, comme en témoigne le succès en librairie des ouvrages signés Nicolas Sarkozy et François Hollande. Par ailleurs, publier un politique, ça permet de nouer de bonnes relations avec lui, ce qui sera peut-être utile un jour. Ne jamais insulter l'avenir. Et puis, de toute façon, la plupart ne coûtent pas très cher. Les avaloirs sont bien inférieurs à 10 000 euros. Résultat, il ne faut que quelques milliers d'exemplaires vendus pour être à l'équilibre et quand cela n'arrive pas, les pertes restent limitées.
Bon, les maisons d'édition sont d'accord, mais pourquoi les politiques persistent à écrire des livres si la plupart ne fonctionnent pas ?
Alors déjà, nous avons en France cette tradition du politique ayant un certain niveau littéraire. Victor Hugo, Charles de Gaulle, Pompidou ou encore Mitterrand n'étaient pas maladroits avec la plume. Sortir un livre fait aussi partie de la boîte à outils du candidat. Cela peut même masquer une campagne, comme on l'a vu récemment avec Éric Zemmour. Et puis, sortir un livre, c'est aussi et surtout le parfait prétexte pour se faire inviter à la radio, à la télé et obtenir des articles dans la presse. Bref, exister médiatiquement quand politiquement, c'est plus compliqué.
Alors, c'est un, alors pas un livre, mais un article à lire dans...
Dans les Échos.
Dans les Échos, merci beaucoup. Merci Julien Rideau sur le pressing.
À quand votre premier roman, Julien ?
On a...
Je fais pas de politique, moi.
On vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour parler sport, Martin.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1, les principaux titres de ce lundi. C'est le journal permanent, Alban Le Prince.
Transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, objectif de l'exécutif avant fin janvier. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, l'a annoncé hier. L'hypothèse de son extension au lieu de travail ne convainc pas franchement les partenaires sociaux. Reçu aujourd'hui par Elisabeth Borne, la ministre du Travail. L'autre sujet en ce moment, c'est la vaccination contre le Covid des enfants de 5 à 11 ans. La haute autorité de santé rend son avis aujourd'hui. Et puis Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur incarcéré depuis une semaine, a payé l'intégralité de sa dette au Trésor public. Selon son avocat, hier, il demande sa remise en liberté.
Europe 1.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Initiative en France.
Bonjour Damien Pi.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le président et cofondateur de DanTech, entreprise française qui fabrique un appareil épatant au nom étonnant, Bob, un mini lave-vaisselle révolutionnaire. Expliquez-nous.
Alors Bob, c'est un petit lave-vaisselle autonome. Sa spécificité, c'est qu'il se pose à côté de l'évier sur l'égouttoir parce qu'il ne mesure que 34 cm de large, 49 de profondeur, 49 de hauteur. Il n'y a pas besoin d'arrivée d'eau. C'est-à-dire on le pose, on le branche au réseau électrique, on le remplit par le dessus comme une machine à café, 3 litres d'eau, et on va laver en 20 minutes la vaisselle de 2 personnes, c'est-à-dire 6 assiettes, 4 verres, 2 tasses, 2 bols et les couverts, donc avec 3 litres, soit 5 fois moins d'eau qu'un lavage à la main pour la même quantité de vaisselle.
Et si on est en couple, c'est suffisant, là, tout ce que vous venez de nous décrire ?
Si on est en couple, ça fait la vaisselle d'une journée, si on est tout seul, ça fait la vaisselle de 2 jours. Et comme le Bob aujourd'hui est utilisé majoritairement par des célibataires, à peu près 57%, le taux d'utilisation, c'est un cycle tous les 1,7 jours.
Oui, c'est l'appareil idéal pour les étudiants et les jeunes actifs. D'autant qu'il est joli, Bob. Il a un look rétro, il est personnalisable, c'est ça ?
Exactement. Alors Bob, c'est pas que les étudiants, enfin c'est surtout les jeunes actifs en fait. Aujourd'hui, 35% de nos clients sont des jeunes actifs, donc voilà, plutôt célibataires ou en couple sans enfants, vivant dans une grande ville. Et il est personnalisable puisqu'on a 12 couleurs pour la porte et 2 pour le corps, blanc ou noir, qui permet voilà de choisir la couleur qui fit parfaitement avec sa cuisine.
Alors il est pratique, vous l'avez dit, mais il est aussi écologique votre appareil, parce que nettoyer ses assiettes dans un lave-vaisselle, ça consomme beaucoup moins d'eau que de frotter à la main, c'est ça ?
Utiliser un lave-vaisselle, ça consomme toujours moins d'eau qu'un lavage à la main, même si peu de gens sont convaincus, on va dire, parce qu'en fait, l'eau, quand elle est utilisée dans le lave-vaisselle, elle est utilisée plusieurs minutes avec la même eau, donc on consomme assez peu d'eau. Nous, avec Bob, on est à 3 litres. Là où en lavage à la main, on est à 15 litres, donc c'est 5 fois moins d'eau. Et nous, on est au-delà de l'économie d'eau. C'est-à-dire qu'on a intégré toute une démarche d'éco-conception, puisque le produit est conçu pour durer au moins 10 ans. On a réalisé des tests d'endurance en laboratoire pour s'en assurer. Et il est fabriqué en matériaux recyclés. C'est-à-dire que tout le plastique du Bob, il est fabriqué en France à partir de plastique recyclé, qui du coup vient lui-même de France. En fait. Donc ça permet de garder la source en France. Et il est facilement réparable, puisqu'il suffit de le retourner, d'enlever 4 vis à l'aide d'un tournevis. Et on peut changer en quelques minutes n'importe quelle pièce.
Alors, ce mini lave-vaisselle est éco-responsable, on l'entend. Est-ce que ça va aussi pour les détergents que vous proposez ?
Nous, on a vraiment intégré la démarche d'éco-conception sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Et donc, même le détergent est biodégradable. Et on a 2 détergents pour le Bob. Donc, il y a d'une part la Bob cassette, dont le nom vient d'une analogie avec les cassettes VHS que certains ont peut-être connues, qui s'insère en fait à l'avant, vraiment comme un magnétoscope. Clac, on met la Bob cassette dedans. Et la Bob cassette, elle contient 30 cycles de lavage. Cette cassette-là, elle est consignée. C'est-à-dire que tous les 4 cassettes, on peut nous renvoyer son pack de cassettes. Et nous, on va les recycler en fait et les remettre sur le marché. Et ça crée 0 déchet plastique. Et donc ça, c'est une solution pour les cycles courts, 15-20 minutes. Et on a aussi sorti une solution pour les cycles longs et pour les gros lave-vaisselle qui s'appelle la Bob Tablette. Sa spécificité, c'est que c'est une tablette pour lave-vaisselle qui est biodégradable et fabriquée en France, certifiée écolabel, et qui nettoie extrêmement bien, notamment le thé. En fait, l'idée est venue du fait qu'on vend des Bob à Taïwan. Il se trouve qu'à Taïwan, ils boivent beaucoup de thé, et du coup, quand ils ont reçu les premiers Bob, ils nous ont dit « Non mais les gars, votre produit, c'est de la camelote, ça ne lave pas, les tasses de thé, elles sont toujours sales après utilisation. » Donc du coup, on a regardé d'où venait le problème, et on s'est rendu compte que c'était qu'en fait, les détergents européens ne sont pas faits pour enlever les traces de thé, parce qu'en France, on boit beaucoup de café, donc le thé, n'est pas réellement un problème.
Ça coûte combien un Bob ?
Alors, un Bob, c'est à partir de 289 € pour la version minimaliste. Sinon, la version standard customisable est à 319 € plus 30 € de frais de port, donc 350 €. Et il y a la version full option qui est fournie du coup avec le Bob plus l'option UV qui permet de désinfecter les masques, les téléphones, les portefeuilles et cartes de crédit avec des ultraviolets sans eau. Un pack de cassettes, un pack de tablettes, le tuyau d'arrivée d'eau, le pack extra glace qui permet de mettre 16 verres ou tasses, donc c'est parfait pour les bureaux ou quand on reçoit du monde, parce qu'en 15 minutes, on peut laver 16 verres ou tasses. Et la carafe pour le remplir à 450 € en magasin, dans tous les magasins Boulanger et Darty par exemple.
Vous en avez déjà vendu beaucoup ?
On en a vendu pas mal quand même, puisqu'on en a livré 37 000 depuis le début de la production en novembre 2020. Donc c'est quand même un beau succès et on table sur le double l'année prochaine. Cette année, on a fait 35 000. Donc on table entre 50 et 70 000 sur 2022.
Et c'est Made in France, vous l'avez dit tout à l'heure. On vous souhaite que ce succès dure et s'intensifie. Merci beaucoup Damien Pi de nous avoir présenté Bob, le mini lave-vaisselle français pratique et écologique. Bonne journée.
Merci,
et passez de bonnes fêtes.
Jetez l'éponge, adoptez Bob.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à vous et bienvenue, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Bonne semaine de fête et aussi bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et on commence avec ce joli cadeau en avance sur Canal+.
Oui,
Omblin.
Le retour du tueur en série le plus attachant de la télévision. Il s'agit bien sûr de Dexter Morgan, qu'on avait quitté sous le soleil de Miami, qu'on retrouve 8 ans plus tard dans une petite ville enneigée. Rendez-vous dans 20 minutes avec Marie Jiquel.
Et puis les adeptes des magazines People le savent bien, depuis des années, Brad Pitt possède un domaine exceptionnel en France, dans le Var.
Oui, le château de Miraval, entouré de garrigues et de vignes, il produit son propre rosé. D'ailleurs, ce qu'on sait moins, c'est qu'au cœur du château se trouve l'un des studios d'enregistrement les plus mythiques du monde, qui a vu passer les Pink Floyd, Sting, AC/DC, laissé à l'abandon pendant presque 20 ans. Et bien Brad Pitt a décidé de le relancer dans une version totalement repensée. Il s'est associé à un jeune producteur et ingénieur son français, Damien Quintard. Il sera notre invité dans un quart d'heure.
Mais tout de suite, c'est la météo avec vous, Anissa Haddadi. Gris dans le nord et ensoleillé dans la moitié sud, c'est le programme du jour.
Et c'est le programme depuis plusieurs jours maintenant. Hein. On commence à s'y habituer. Attention tout de même ce matin aux nombreux brouillards qui recouvrent quasiment les deux tiers du pays. Alors au nord, vous tirez une ligne qui va de Bordeaux jusqu'aux Alpes. Au nord de cette ligne, on a un ciel très chargé ce matin. Dans le sud-ouest aussi, hein, on a pas mal de grisailles en vallée de la Garonne. Soyez prudents parce que les brouillards sont épais dans ce secteur. Attention aussi dans la vallée du Rhône, les brouillards descendent jusque dans le Vaucluse. Dans le sud de l'Auvergne, sur la Côte d'Azur, la Provence, la Corse, les Pyrénées, les Pays Basques, là... Dès que le jour va se lever, vous aurez droit à un très beau soleil. Cet après-midi, le soleil brille sur toute la moitié sud. Quelques nuages qui traînent en Nouvelle-Aquitaine encore cet après-midi. Puis sur la moitié nord, c'est plus compliqué. Hein. Ça reste gris encore et assez couvert. Les températures, alors là, elles sont en chute libre. Il fait froid, moins 8 à Brive ce matin, moins 6 au Puy-en-Velay, moins 4 à Aurillac. Attention au brouillard givrant, moins 2 à Nîmes et à Belfort. 0 à Marseille et Lyon, 3 à Lille, 5 à Paris et 7 à Cherbourg. Cet après-midi, c'est la fraîcheur. Couvrez-vous, 1 degré à Saint-Étienne, 4 à Lyon, 8 à Paris et Limoges, 10 à Montpellier et 14 seulement la maximale pour Ajaccio.
On ressort les gros pulls donc. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
On serre la vis un peu partout en Europe face à la flambée de l'épidémie, comme aux Pays-Bas où le pays est reconfiné. La vaccination plutôt que de nouvelles restrictions, c'est la stratégie adoptée en France. Le gouvernement souhaite faire voter au plus vite le pass vaccinal. Et puis changer de nom de famille en s'évitant une paperasse inutile. Éric Dupond-Moretti veut simplifier la procédure.
Europe Matin. Et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Fermeture des magasins, couvre-feu pour les bars, les pays d'Europe luttent chacun à leur façon contre la nouvelle flambée de l'épidémie. Aux Pays-Bas, on a opté pour un reconfinement strict pour 4 semaines. Il est entré en vigueur hier. Ça veut dire que les fêtes de fin d'année se feront à la maison en tout petit comité. Et c'est un coup dur pour les Néerlandais. Wilfried de Villers.
Comme un air de déjà-vu qui laisse un goût amer aux Néerlandais, des fêtes de fin d'année confinées et une règle stricte, pas plus de 4 invités autour de la table pour le réveillon. Des mesures difficiles à entendre pour Eline, elle est étudiante à La Haye.
On a tout fait les vaccinations et on a cru que c'était passé. C'est juste que tout est fermé.
Fermé les magasins non essentiels, fermé aussi les restaurants, les cinémas, les théâtres. Pour le moment, pas de restrictions de déplacement à l'extérieur, mais les 17 millions de Néerlandais sont tout de même appelés à rester chez eux le plus possible. Récemment installée dans le pays, Ina a été prise de court par ces mesures.
Je ne m'attendais pas trop qu'il y ait un confinement parce que la deuxième fois justement qu'ils ferment aussi strictement les magasins, c'est les fêtes. Donc on a l'impression qu'on va sortir, il y aura du monde, on va faire le shopping. Mais là, aujourd'hui, c'était assez calme, assez mort.
Au moins 4 semaines de confinement, le reste dépendra de l'évolution de la situation épidémique. Si 86% des adultes sont vaccinés, la campagne de rappel, dite de booster aux Pays-Bas, aurait démarré bien trop tard, regrette la communauté scientifique néerlandaise.
Et Wilfried de Villers pour Europe 1. Au Royaume-Uni, par ailleurs, les chiffres sont assez effrayants. Les scientifiques britanniques craignent le pire. Si aucune restriction n'est prise, ils estime que les décès pourraient atteindre 6000 par jour d'ici la fin du mois.
Chez nous, pas de reconfinement en vue, mais plusieurs pistes pour endiguer la hausse des contaminations, d'autant que le taux d'incidence n'a jamais été aussi haut.
Oui, Santé publique France indique qu'il est de 530,3 dans l'Hexagone. C'est le nombre le plus haut depuis le début de la pandémie. Et c'est donc dans ce contexte que le gouvernement veut rapidement mettre le pass vaccinal en route avec adoption du projet de loi d'ici la fin janvier. La vaccination, c'est le mantra de l'exécutif plutôt que d'avoir recours à de nouvelles restrictions. C'est un choix assumé, même si ça prive des Français de liberté. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, était chez nos confrères d'LCI hier soir.
Oui, ce qu'il a dit, c'est que c'était une forme d'obligation vaccinale. Dès lors qu'on transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, il faut bien comprendre que le sens de notre logique, c'est quoi ? C'est de dire qu'on souhaite que les vaccinés puissent vivre quasi normalement. Ça implique que les personnes non vaccinées vivent malheureusement un quasi-confinement. C'est ça la logique de ces mesures. Ça veut dire que quand vous faites le choix en responsabilité de ne pas vous faire vacciner, alors qu'il est établi que le vaccin il est efficace et qu'il est sûr, et qu'il y a un risque de reprise épidémique, ça implique que vous n'accédiez pas à un grand nombre de lieux, les lieux qui existent aujourd'hui dans le cadre du pass sanitaire, peut-être d'autres.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement chez nos confrères d'LCI.
Le pass sanitaire ou bientôt pass vaccinal qui pourrait bientôt également s'appliquer aux entreprises.
Oui, l'idée a été évoquée hier par Olivier Véran. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, rencontre demain les partenaires sociaux justement pour discuter du sujet.
En attendant, si vous prenez le train, attendez-vous à être contrôlé.
C'est le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui l'a redit. Les contrôles de pass sanitaire seront renforcés pendant les fêtes puisque des millions de déplacements ont lieu en l'espace de quelques jours. Plus de 4 millions de billets de trains sur la période ont été vendus et quoi qu'il arrive, il faudra rentrer dans les temps. Pas question de décaler la rentrée scolaire au-delà du 3 janvier. C'est ce que précise Jean-Michel Blanquer.
Nous partons à présent à 5h34 pour Villeneuve-Saint-Georges, c'est dans le Val-de-Marne.
Oui, l'État vient à la rescousse de cette ville qui est la plus pauvre du département. À compter d'aujourd'hui, des ministres, des personnalités vont se succéder pour formuler des annonces. Emmanuel Wargon sera là aujourd'hui, Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer dans la foulée. En fait, c'est le maire de la ville très endetté qui a sollicité l'aide de l'État et Marion Gauthier s'est rendue pour Europe 1 à Villeneuve-Saint-Georges pour constater les dégâts.
La rue de Paris, c'était les Champs-Élysées de la banlieue.
Une rue désormais crasseuse, ourlée de locaux vides, quelques maisons cossues, signe d'un passé prospère et de nombreux habitants sur le départ.
Chaque année, c'est de pire en pire. Nous, au-dessus de la boulangerie, là, on a un appartement. Il y a énormément de rats. L'humidité, il y a ça, il y en a partout. Des fils électriques, il y en a partout. Moi, mon père, il en a marre d'ici. Hein.
Les classes moyennes quittent Villeneuve-Saint-Georges. Moi, je voudrais les conserver parce que ce sont elles, essentiellement, qui font vivre le commerce local.
Philippe Godin, le maire d'Hiver Droite, multiplie les projets.
Bonjour, monsieur le maire. Bonjour.
Mais revient sans cesse à la dette que lui ont léguée, dit-il, ses prédécesseurs.
Un peu plus de sécurité.
De sécurité, c'est.
Donc, évidemment, il faut des moyens supplémentaires que j'ai pas tout seul en tant que maire.
Villeneuve, c'est une ville, elle est bien desservie, elle est bien positionnée. Il y a juste qu'à l'arranger.
Au moins 60 millions seraient nécessaires pour construire ou rénover des immeubles, des écoles, dans seulement 3 quartiers de cette ville qui compte 45% de logements sociaux.
Moi, ici, il y a 470 logements, je veux une école pour ces enfants-là. Qui peut m'aider? Quels sont les fonds que je peux aller chercher? J'ai besoin qu'on m'aide.
Appel entendu par l'exécutif, car après la ministre du Logement, les ministres de l'Intérieur, de l'Éducation ou du Numérique doivent se rendre à Villeneuve-Saint-Georges dans les prochaines semaines. Il n'y a plus de temps à perdre en discours, affirme le maire qui attend désormais des engagements concrets de l'État.
Le reportage de Marion Gauthier pour Europe 1.
Pouvoir choisir son nom de famille, c'est ce que souhaite la majorité.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, va déposer en ce sens un projet de loi. Elle va permettre à l'enfant, une fois majeur, de pouvoir choisir entre le nom de son père ou de sa mère, ou les deux, dans le sens qu'il souhaitera. Il n'aura qu'à remplir un simple formulaire, un mode d'emploi avec Océane Théard.
Une loi de liberté, insiste le garde des Sceaux, celle de chaque Français de plus de 18 ans de choisir son nom de famille, celui de sa mère, de son père ou les deux, dans un sens ou dans l'autre. Pour les mineurs, il faudra l'accord des deux parents. En cas de désaccord, un juge tranchera. Une proposition de loi pour faciliter la vie des familles. Par exemple, pour une mère célibataire qui souhaiterait que son enfant porte son nom et pas celui d'un père absent ou inexistant, lui évitant, pour Éric Dupond-Moretti, l'humiliation de devoir prouver sa maternité, exhiber son livret de famille pour inscrire son enfant à la cantine, par exemple. Il s'agira aussi de pouvoir abandonner le nom d'un parent coupable d'inceste ou de violence conjugale. Toute la procédure tiendra en un seul formulaire délivré par le service d'état civil de la mairie d'origine, bien loin des piles de dossiers à remplir, des demandes à adresser et de la centaine d'euros à débourser si vous vouliez changer de nom jusqu'à maintenant.
Et les précisions d'Océane Théard. À l'étranger, la présidentielle au Chili et la victoire du candidat de gauche progressiste Gabriel Boric face à un adversaire d'extrême droite. C'est un triomphe pour la coalition de gauche, Parti communiste compris, dans ce duel qui est inédit depuis le retour à la démocratie. C'était en 90.
On passe au sport avec les 32e de finale de la Coupe de France.
Oui, Paris, le tenant du titre, qui a battu Feni Alnoua 3-0 hier soir. Marseille s'est fait un petit peu peur en début de match face au Canet Rocheville, mais se qualifie 4-1. Metz, club de Ligue 1, a été éliminé par Bergerac, un club de Ligue 2. Et puis on a une pensée pour le gardien du club de Mayotte, de Jumeau Mzouzia, qui a encaissé 10 buts, rien que ça, face à Bordeaux.
Ah oui, au niveau statistique, hein.
C'est dur.
Plombé un peu les siennes. Et puis cette déception également pour les handballeuses françaises.
Oui, qui s'inclinent en finale de la Coupe du Monde contre les Norvégiennes, 29-22. Les Bleus, qui ont tout de même effectué une très belle année après le titre olympique à Tokyo. Éclipse totale, titre l'équipe ce matin, qui a consacré ses 3 dernières unes aux joueuses de l'équipe de France de handball, ce qui en soit déjà une victoire.
C'était le journal de Lénaïque Monnier. Merci beaucoup, Lénaïque. Les courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 2500 mètres de la piste en sable fibré d'Auvillès que va se courir ce Quintet, un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 7 ans avec deux bons favoris, les numéros 1 Monsieur Xo et 2 Checkpoint Charlie, respectivement 2e et 5e d'un Quintet similaire le 17 novembre sur le parcours qui nous intéresse. Et comme je les sais tous les deux dans le même état de forme, ils peuvent être considérés comme deux coups sûrs absolus dans les 5 premiers. On leur opposera les numéros 7, Santazo, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec, ayant été victime d'un abcès au pied, 10, Kerat, pour lequel son entraîneur François-Xavier Belvisi ne m'a pas caché sa confiance, et 16, Just Light, idéalement placé en bas de tableau de ce handicap. Enfin, les numéros 8, Poète Quest, 12, Balmoral, et 5, King Cobra, compléteront ma sélection. Mon pronostic: As, 2, 7, 10, 16, 8, 12 et 5.
Vous retrouvez ces pronostics sur Europe1.fr, évidemment. Merci Thierry Léger et à demain.
Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Le jour où, à 6h20, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et on commémore aujourd'hui le 20e anniversaire de la mort de Léopold de Sédar Senghor. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Ombline, bonjour Pauline, pardonnez-moi. Léopold Sédar Senghor, c'est l'ancien président du Sénégal, c'est aussi un essayiste, c'était un poète, celui qui a traversé le XXe siècle. Pauline n'a cessé de vouloir jeter des ponts entre l'Afrique et l'Europe, entre ces deux cultures, la France et le Sénégal.
Léopold Sédar Senghor, Sédar, ce qui veut dire dans sa langue natale le sérère, celui qu'on ne peut humilier. Un prêtre normand lui apprend les rudiments de grec, de latin, de wolof et de français. Il a 7 ans, à des milliers de kilomètres du pays sérère au Sénégal, Kay Conti, à Paris, 77 ans plus tard. Il devient le premier écrivain noir à être élu à l'Académie française.
Je pense qu'on a fait confiance aux poètes et aux professeurs que j'ai été pendant 25 ans en France, mais aussi aux militants de la francophonie, voire aux militants de la négritude. Je pense que nous allons introduire le mot de négritude. Je n'introduirai pas gréver pour faire la grève, je n'introduirai pas essencerie pour un poste d'essence.
Léopold Sédar Senghor est l'héritier des plus grands auteurs de la littérature française. Il l'est aussi des griots sénégalais, de leur culture orale. Dans ses poèmes, il évoque les traditions africaines, normandes d'adoption. Dans ses rêves, il compare les côtes françaises aux côtes sénégalaises. En 1931, il rencontre Aimé Césaire. Naît alors une amitié très forte. Les deux hommes lancent ensemble le mouvement de négritude, courant politique et littéraire qui porte l'ensemble des valeurs du monde noir. Elles sont mises à l'honneur dans le discours de Senghor lors du premier festival des arts nègres à Dakar en 66.
Vous aurez participé à l'élaboration d'un nouvel humanisme qui comprendra cette fois la totalité des hommes sur la totalité de notre planète Terre.
Alors on l'entend Pauline, Léopold Sédar Senghor veut œuvrer à l'universalité et à la fraternité entre les peuples.
À l'image peut-être de son amitié avec Georges Pompidou, deuxième coup de foudre amical. Pompidou, qu'il rencontre au lycée Louis-le-Grand à Paris, classe préparatoire littéraire où il lit tout ce qu'il peut, Proust, Giraudoux. Ensemble, ils vont au théâtre, au cinéma. Une amitié qui incitera Léopold Sédar Senghor à s'intéresser à la politique. Député, puis premier président du Sénégal en 1960 après l'indépendance. 11 ans plus tard, il reçoit son ami Pompidou, lui aussi président.
Le président Senghor, humaniste de la négritude, comme l'appelait Georges Pompidou il y a des dizaines d'années, ne cache pas son émotion de retrouver un ami.
Je suis heureux d'accueillir dans mon pays un vieux camarade de lycée et un ami.
Celui qui était surnommé avec tendresse par sa mère, le Babtou, le Toubab, le Blanc, deviendra donc le premier écrivain académicien noir, le premier président du Sénégal. Il sera aussi le premier président africain à démissionner de son propre chef. Il quittera son poste en 1980, 20 ans après avoir été élu.
Merci Pauline Jacquot, c'était le jour où 5h43, dans un instant, direction le Var, le studio d'enregistrement de musique de Miraval, relancé par son propriétaire, qui n'est autre que Brad Pitt.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info.
info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h43 et on ne le dit pas assez, c'est en France que se situent deux des studios d'enregistrement de musique les plus mythiques au monde. Le château d'Hérouville dans le Val d'Oise, à 1 heure de Paris, et Miraval dans le Var. Ce dernier a été construit à la fin des années 70. Il fait partie du domaine du château de Miraval appartenant à Brad Pitt, qui a décidé ces derniers temps de le relancer. Et pour cela, la star américaine a embauché le producteur et ingénieur du son français Damien Quintard. Il est ce matin notre invité, Omblin.
Bonjour Damien Quintard.
Bonjour, bonjour.
Dans un écrin entouré de vignes sous le soleil méditerranéen, les studios ont accueilli dans les années 80 et 90 des artistes aussi prestigieux que The Cure, Sting, Brian Ferry. AC/DC a enregistré son album Blow Up Your Video lors de l'été 87. Pink Floyd a mis sur bande une partie de The Wall. Quel a été votre premier sentiment en tant que professionnel du son quand vous avez appris que les studios Miraval étaient relancés ?
C'est une très bonne question parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné du tout quand Brad était venu me voir à Paris pour me dire « J'ai ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Qu'est-ce qu'on peut créer d'exceptionnel là-bas vu l'histoire absolument dingue du lieu ?» Donc c'était un peu toute une aventure pour faire en sorte à ce qu'on puisse trouver ensemble une façon de travailler aussi, surtout. Le plus important, c'était de retrouver une sorte de ligne directrice pour faire en sorte à ce que Miraval puisse rouvrir et puisse rouvrir dans les meilleures conditions été 2022. Quoi. Donc, dès que j'ai pu proposer mon plan pour faire en sorte à ce qu'on parte sur cette aventure ensemble, oui, j'étais plutôt content que ce soit accepté. J'étais aussi très honoré d'être contacté par quelqu'un comme Brad pour faire un projet aussi exceptionnel. Quoi.
Parce qu'on le sait peu, hein, Brad Pitt n'est pas que comédien, producteur de cinéma et viticulteur. Il est aussi un fou de musique, donc le courant est passé tout de suite entre vous ?
Oui, absolument. C'était une sorte de coup de foudre émotionnel intense, une sorte de coup de foudre musical. On est vraiment restés 5 heures ensemble à parler non-stop de musique, d'appréciation des enregistrements, des artistes, des émotions, et aussi de ce qu'on voulait faire à Miraval, des émotions qu'on voulait retranscrire là-bas, vu la simplicité absolue du lieu. Et aussi la richesse historique de ce studio, quoi. Donc, en effet, c'était un peu un coup de foot, c'est un bon mot.
Avant les travaux qui ont débuté, hein, il ressemblait à quoi ces studios Miraval ? Qu'est-ce qui restait ?
En fait, quand j'y suis allé la première fois pour un peu faire l'état des lieux, j'avais un peu peur parce que je savais que ça faisait à peu près plus de 20 ans que c'était pas utilisé. J'avais un peu cette vision d'horreur de rentrer dans un lieu absolument détruit, etc. Mais pas du tout. Tout était super bien préservé. Bien sûr, le temps avait eu son impact sur quelques éléments du studio. Mais on va dire, le design qui avait été fait à partir de 1977, quand Jacques Loussier avait ouvert le studio, c'était un design très 70s. C'était des couleurs un peu mauves, un peu pourpres, etc. Et ça avait tout à fait son charme. Mais je voyais aussi, vu la technologie qui pouvait être utilisée à l'époque pour les traitements acoustiques, ils prenaient vraiment beaucoup, beaucoup d'espace pour ces traitements acoustiques. Et maintenant, on a des choses un peu plus modernes qui prennent un peu moins de place. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, c'était de redonner encore plus d'espace à ce lieu qui est quand même assez gigantesque. Il y a 100 mètres carrés pour la control room et 320 mètres carrés pour la salle où on enregistre les artistes. Et donc, c'était gagner un peu plus d'espace et aussi avoir une communion avec la nature et donc agrandir un peu la hauteur de plafond et faire en sorte à ce qu'on ait le plus de lumière qui rentre dans le lieu parce que dans les 70s, je sais pas, mais ils n'étaient peut-être pas super amoureux d'être en contact avec la nature alors que là, vraiment, on ouvre littéralement tout.
Bon alors, j'imagine que la couleur pourpre ou mauve, elle va peut-être disparaître, vous allez me le dire, mais l'équipement d'origine... Vous le conservez ou vous repartez de zéro ?
On ne repart pas du tout de zéro. En fait, il y a des albums assez iconiques qui avaient été enregistrés là-bas et des personnalités aussi assez dingues. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est garder justement tout l'héritage, préserver l'héritage du lieu et faire en sorte à ce qu'on puisse enregistrer avec ce qu'ils utilisaient à l'époque, il y a 50 ans, et de faire en sorte à sublimer le passé qu'on nous a légué, aussi avec un apport de technologie moderne. Parce qu'on peut avoir une précision supplémentaire aujourd'hui avec certains éléments modernes. Mais par contre, les émotions, ça, je pense que dans le passé, ils savaient exactement bien les faire. Donc, tout ce qui est ancien micro, ça, on garde les micros originaux sur lesquels Pink Floyd, AC/DC avait enregistré. ainsi que cette table de mixage, une SSL 4000 assez légendaire aussi, où il y a un certain son, une certaine émotion et une certaine fragilité aussi qu'on veut absolument préserver.
Vous n'allez pas faire que du rock hein, dans ces studios Miraval. Vous avez d'autres envies d'un point de vue des styles, d'albums, de ce que vous allez enregistrer ?
Oui, absolument. Enfin, le lieu, en fait, quand on rentre dans Miraval, on se rend compte que c'est un lieu qui est très calme. Il y a une sorte de beauté absolue dans cette simplicité que le lieu émane. La chose la plus importante, c'est l'inspiration qu'un artiste peut avoir quand il rentre dans un endroit comme ça. Et donc, forcément, nous, on peut faire en sorte à ce que Miraval soit un studio modulaire et qu'il soit vraiment adapté à différents styles de musique, la musique classique, le rap, le rock, l'électro, la pop, peu importe. Je pense que littéralement tout est possible là-bas.
Je ne sais pas si vous allez pouvoir me le dire, mais en deux mots, ce seront qui les premiers pensionnaires de Miraval dans quelques mois ?
C'est la question qu'un peu tout le monde se pose. On a,
ben oui.
On a des premiers contacts, bien évidemment, on va dire des pré-réservations de ce côté-là. Pour l'instant, on ne peut rien annoncer, mais n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur le site, etc. pour avoir, je pense, que quelques exclusivités dans les prochaines semaines et les prochains mois.
On n'y manquera pas. Merci beaucoup, Damien Quintard. Je rappelle que vous êtes producteur, ingénieur du son et président du studio Miraval. Et on a hâte d'entendre le fruit des premières sessions. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité de ce lundi, le journal permanent Alban Le Prince.
Et les Pays-Bas reconfinés depuis hier, les experts allemands recommandent des restrictions dans les plus brefs délais. Le raz-de-marée Omicron déferle sur l'Europe. En France, pas de nouvelles mesures à ce stade, mais le pass sanitaire devrait se transformer en pass vaccinal d'ici fin janvier, annonce hier de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Prendre le nom de famille de sa mère, de son père ou les deux dans le sens que l'on veut, chaque Français pourra choisir son nom une fois dans sa vie. Proposition de loi annoncée hier dans le magazine Elle par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Une année qui restera malgré tout exceptionnelle. Les handballeuses françaises se sont inclinées hier en finale du mondial face à la Norvège. Résultat 29 à 22.
Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Julien.
On passe à l'actualité culturelle et le lundi, c'est série.
Il revient après 8 ans d'absence. Il, c'est Dexter, le tueur en série le plus attachant du petit écran.
On l'avait quitté à Miami en 2013. La suite Dexter New Blood est diffusée par Canal+ en cette période de fête. Et on est loin, Marie, du conte de Noël.
On est loin, mais le décor est parfaitement de saison. De la neige à foison, des guirlandes lumineuses sur tous les murs de la ville, une forêt de sapins. On est très loin, surtout de Miami, et dans cette ville paisible d'Iron Lake, dans l'état de New York, un nouveau venu, Dexter, n'est pas mort, comme l'avait sous-entendu la fin de la dernière saison. Il a juste changé d'identité et tente de refaire sa vie, même s'il demeure hanté par ses vieux démons. Des vieux démons qui parleront aux fidèles de la série comme vous deux, hein, Julien et Omblin, et qui ne gêneront pas ceux qui découvrent Dexter. Et pour cela, petit rappel, Dexter, c'est le gros succès des années 2000 qui met en scène un expert en médecine légale, psychopathe minutieux et justicier puisqu'il tue les criminels. Et puis il est très lié à sa sœur Debra. Alors la fin de la dernière saison avait déçu le public, donc cette suite permet de réécrire aussi une fin. Dexter et Debra sont donc de retour, lui en trappeur montagnard et elle en fantôme, sorte de Jiminy Cricket.
Vous êtes Dexter Morgan ?
Je sais pas de qui tu parles.
T'es plus le même homme. Presque 10 ans sans tuer quelqu'un.
Hé, hey, doucement, on se calme.
C'est quoi le problème ?
J'ai un petit souci avec le sang.
Oh, bouh.
On se fout de ce que j'ai été. C'est ce que je suis, qu'importe. Je suis peut-être un monstre, mais je suis un monstre qui évolue.
Bon Marie, avec un nom pareil, Dexter New Blood, on imagine que le fameux Dexter ne s'est pas rangé.
Et non, bien sûr, notre héros avait pourtant pris de bonnes résolutions, il s'était calmé au moins durant les 40 premières minutes. Bon, on se doutait quand même que l'acteur Michael Scioll n'allait pas réendosser le costume de Dexter sans se salir les mains, sans sortir de grands mensonges et des bâches hein, pour ses scènes de crime. Il avait pourtant bien commencé, se faisant passer pour Jim, un sympathique employé de magasin de chasse, apprécié par ses voisins, flirtant avec la gentille policière. Et puis, Dexter vrille.
Ça fait si longtemps. Mais si je dois le faire, il faut que je le fasse bien. Première règle du code. Ne pas se faire prendre.
Alors savez-vous ce qui nous indique que ça va se corser et finir en boucherie à votre avis?
Non, j'ai pas fait attention s'il y avait un signe particulier.
Malgré les bruitages
très sanglants, la claque, les splash.
Eh bien, c'est lorsque la chanson pop américaine laisse place à une musique classique sans paroles. Il faut bien souligner l'importance de la bande-son. Il y a vraiment un travail sur l'ambiance musicale, même avec toute cette neige censée absorber les sons.
La réalisation, Marie, est toujours à la hauteur.
Alors, c'est efficace. On prend les mêmes et on recommence, malgré quelques grosses ficelles dans le scénario. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais sans trop divulgâcher, le fils de Dexter, Harrison, débarque. C'est désormais un adolescent. Donc ce thème délicat pour Dexter de la paternité se présente lui aussi avec ses gros sabots. L'humour noir qui caractérisait notre Dexter est là aussi un peu facile et léger. Mais la réalisation sert vraiment l'intrigue avec des effets de suspense, des flashbacks, des rêves. On est loin d'une caméra contemplative et en tout cas, c'est un retour gagnant aux États-Unis.
Vous savez, quand on aime les ficelles, on les aime avec. On prend tout, non, il n'y a pas de problème. Dexter New Blood, 10 épisodes de 52 minutes, de quoi être rassasié pour les fêtes diffusées tous les jeudis soirs sur Canal+, et disponible sur MyCanal.
Merci.
Europe Matin.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1, dans un instant la météo, le journal et un coup de mou.
Celui que ressentent de nombreux Français alors que l'épidémie repart de plus belle. Comment ça va? Fatigué? J'en ai marre? Voilà les réponses qu'on entend le plus souvent autour de nous. On est parfois nous-mêmes plus affectés qu'on ne le pense par cette interminable pandémie, cet ascenseur émotionnel permanent. Cinquième vague, bientôt la sixième, troisième dose, bientôt la quatrième. Le Covid est un tunnel d'autant plus difficile à supporter quand il remet en cause nos fêtes de fin d'année. Comment retrouver de la Comment ne pas sombrer? Eh bien, on en parle dans une dizaine de minutes maintenant avec une très grande psychiatre, le docteur Marion Le Boyer. Bon, et puis pour se remonter le moral, il y a encore et toujours la musique et votre partition, Omblin.
Ah, et cette musique fait partie de notre bande originale des fêtes. Michael qui nous a quitté le jour de Noël il y a 5 ans, eh bien on a rendez-vous avec lui et avec la partition dans 20 minutes.
Il faut absolument aller voir le clip de Last Christmas. Hein. Le chalet, la neige, la doudoune violette, tout est là.
C'est cheesy à soi en tout cas.
C'est un sacré Père Noël.
Bon, la météo.
Oui, allez, concentrons-nous.
Anissa Haddadi, les brouillards sont nombreux ce matin et parfois dangereux, attention.
Oui, ce matin, la grisaille occupe une très grande partie nord du pays, quasiment les deux tiers nord du pays. Attention donc ce matin, avec la chute des températures, on a des brouillards givrants, en particulier dans le Val-de-Saône et dans le centre de l'Auvergne, du côté des plaines de la Limagne. C'est parfois assez compliqué sur les routes. D'ailleurs, dans ces régions du centre, les nuages bas vont rester présents toute la journée. Malheureusement, le ciel ne va pas se dégager pour vous. En Bretagne, en Normandie, sur le Val-de-Loire, la région parisienne et les Hauts-de-France, là aussi, le ciel va rester gris une grande partie de la journée. Dans le sud-ouest, on a des brouillards très épais ce matin. Soyez prudents. Des brouillards qui vont se dissiper à la mi-journée, sauf près de la Garonne, où là, le ciel va rester gris. On a des entrées maritimes sur le Languedoc et sur la Corse, mais ils vont se lever dans l'après-midi. On a du vent aussi sur les côtes atlantiques. Moins 8 à Brive ce matin, 5 à Paris et 7 à Cherbourg.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le lundi 20 décembre. Il est 6h, très bon réveil à tous. Vous êtes près de 6 millions à en avoir bénéficié l'année dernière. La prime Macron versée par votre entreprise, un outil crucial dans les négociations salariales et plébiscité par les patrons. Carole Ferry nous expliquera pourquoi dans un instant. Avec du vinaigre, un trait de citron ou nature, elle déferle sur les tables de Noël. Les huîtres, bien sûr, c'est les coups de feu dans les parcs ostréicoles. Reportage au Royaume de l'huître, la baie de Cancale, en Bretagne. Et puis, il dépense des millions d'euros pour un bien immobilier virtuel. Bienvenue dans le monde du métaverse. Un univers en 3D où se précipitent les investisseurs. Une tendance surprenante à découvrir à la fin du journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. C'est au tour des salariés à domicile. L'indemnité inflation versée aujourd'hui à 380 000 travailleurs avant les auto-entrepreneurs mercredi. Un coup de pouce de 100 euros pour compenser les hausses de prix. À cette aide de l'État peut s'ajouter un autre bonus versé cette fois par votre employeur. La prime Macron, réponse à la crise des gilets jaunes, entre 1 000 et 2 000 euros net d'impôts.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Alors Carole, cette prime Macron est facultative, mais elle est malgré tout plébiscitée par les chefs d'entreprise ?
Oui, et c'est clairement un outil qui sera très utilisé dans les négociations salariales en 2022. Voilà en tout cas ce qu'on me dit à l'UIMM,
l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Elle fait partie, par exemple, de l'accord signé la semaine dernière chez Dassault Aviation. Elle est actuellement sur la table des négociations chez Lafarge. L'avantage, selon le MEDEF, c'est qu'il n'y a aucune charge supplémentaire. Il suffit de regarder le bilan de l'entreprise et de voir combien on peut distribuer aux salariés qui gagnent moins de 3 SMIC. Alors, vous avez d'autres initiatives. Eiffage, par exemple, a rajouté 50 euros à la prime inflation. Carrefour et Nexity ont même choisi de la doubler. Total va également verser une prime de 500 euros, mais là, à tous les employés, quel que soit leur salaire, et partout dans le monde. La prime devient donc un outil très prisé par les chefs d'entreprise, un peu moins par les syndicats qui préfèrent bien sûr les augmentations de salaire. Elles ont l'avantage de ne pas être versées qu'une seule fois.
Alors Carole, cette prime doit normalement disparaître le 31 mars prochain. Est-ce que le gouvernement envisage toutefois de la renouveler ?
Alors, ça n'est pas encore tranché, mais ce que je peux vous dire, c'est que Bercy n'y est pas du tout favorable. Et oui, qui dit prime défiscalisée dit pas d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Le ministère de l'Économie préférait que les entreprises utilisent l'intéressement ou la participation, par exemple. En même temps, elle doit disparaître juste avant la présidentielle, une échéance qui pourrait peser dans la balance.
Carole Ferry du service Économie d'Europe 1.
L'Église catholique en quête d'argent pour indemniser les victimes. Les évêques ont promis de collecter 20 millions d'euros et pour y parvenir, ils envisagent de vendre certains biens prestigieux.
À Rennes, le diocèse a même déjà pris les devants. Il va mettre en vente quelques-unes de ses belles pierres pour verser 500 000 euros au fonds dédié aux victimes de pédocriminalité dans l'Église. Une contribution qui nécessite aussi une rationalisation des dépenses. Pierre Dornella est l'archevêque du diocèse de Rennes.
Nous avons décidé tout simplement de diminuer les revenus que nous pouvions avoir en cédant des actifs. On a trouvé qu'il était juste d'apporter immédiatement 500 000 euros en nous délestant d'un revenu, ce qui veut dire que nous allons vivre de façon plus simple, nous allons accepter de vivre sans ce confort. Et ça me paraît très juste. Et c'est ainsi que dès que j'aurai l'information comme quoi l'instance nationale de reconnaissance et de réparation fonctionnera, j'espère le plus tôt possible, chaque personne victime, je soutiendrai leur présentation à cette instance pour qu'elle puisse être entendue et recevoir l'indemnisation qui leur est due.
Monseigneur Pierre Dornella, archevêque de Rennes.
J-4 avant le réveillon de Noël et manque de peau, le Covid s'invite encore à la fête et cette année, l'invité s'appelle Omicron, un variant qui se déchaîne à travers la planète selon un conseiller de la Maison Blanche.
Des fêtes donc au goût amer qui méritent au moins de se faire plaisir autour de la table avec pourquoi pas une bourriche d'huîtres. Les ostréiculteurs réalisent en ce moment la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Sandrine Prioul a donc chaussé ses bottes à la rencontre des producteurs de la baie de Cancale en Bretagne.
C'est des quantités, surtout à Noël, où il y a le plus de ventes d'huîtres. Donc ça fait un beau balai, quoi.
Un balai incessant d'une dizaine de tracteurs armés de longues remorques qui font la fierté de l'ostréicultrice Catel Gléron.
On est un peu en phase de préparation. Là, on commence à remonter les huîtres pour les mettre dans nos bassins, pour que certains collègues commencent l'emballage, et puis toute la semaine, puisque toutes ces huîtres, là, il va falloir les mettre dans les bourriches une à une. Et ça, c'est du travail.
Trier à la main 2500 tonnes, plus de 30 millions d'huîtres à acheminer pour les réveillons. Celle qui dirige l'association du marché aux huîtres raconte que toutes ces bourriches en préparation représentent la moitié de la production annuelle.
Toute l'année, en fait, il faut 4 ans pour faire une huître. Donc elles ont été brassées par les marées, parce que ce sont quand même les plus fortes marées du monde. Donc il y a un brassage d'eau et ça donne ce goût très iodé de l'huître de Cancale. Regardez comme elle est belle, bien pleine. Pleine d'eau, enfin regardez, hop, plein d'iode.
Cancale, Sandrine Prioul, Europe.
Voilà qu'on a, on a faim maintenant. Et après le festin des fêtes de fin d'année, l'heure des bonnes résolutions et des projets pour 2022, avec peut-être un achat immobilier à condition de savoir où investir.
Et la réponse, Julien, ce n'est ni la Bretagne, la Côte Basque et encore moins la région parisienne, mais le métaverse, une copie numérique de notre monde accessible sur Internet, un univers parallèle où vous pouvez par exemple acheter un terrain ou un immeuble par exemple. Ces biens virtuels sont même très demandés, Maud Descamps.
Oui, en quelques semaines, plus de 100 millions d'euros ont été dépensés pour acheter des terrains dans le métaverse. Le dernier exemple en date, c'est la société Tokens qui vient de débourser 2 millions d'euros pour 565 mètres carrés de terrain sur Fashion Street, la rue de la mode qui pourrait devenir une sorte de Champs-Élysées du métaverse. Alors quel intérêt pour les entreprises d'investir dans l'immobilier virtuel ? Eh bien avant tout pour le marketing, explique Arnaud Groussac, fondateur de la plateforme Patrimoine Store.
Et ce qui se projette, c'est plutôt un univers professionnel où vous allez pouvoir avoir votre siège social, avoir votre showroom, avoir votre salle de concert en tant qu'entreprise pour que vos clients viennent se connecter via les casques de réalité virtuelle et viennent partager un moment dans le monde digital.
Au total, 90 000 terrains sont à vendre dans le métaverse. Plus vous vous approchez de la place centrale, plus ils sont chers. Si vous investissez, il faudra payer en crypto-monnaie. Un titre de propriété vous sera délivré. Vous pourrez ensuite louer votre bien à des marques, par exemple, ou alors le revendre lorsque les prix auront grimpé.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Et c'était le journal très concret de 6h avec Romane Hoquet. Merci beaucoup, Romane.
Il est 6h06 sur Europe 1. On passe au journal des sports de Martin Lange. Et on commence, Martin, avec la déception des handballeuses françaises.
Oui, les Bleues ont perdu en finale du Mondial hier, défaite 29-22 face à la Norvège. Après une première mi-temps parfaitement maîtrisée, les joueuses d'Olivier Crumbles ont craqué lors du second acte, n'inscrivant que 6 malheureux buts. Une médaille d'argent au goût amer, donc, même si le bilan de l'année 2021 reste excellent, selon Estelle Nzeminko.
Déçu de finir comme ça, forcément, parce qu'au-delà du résultat, je pense que c'est aussi la plus mauvaise mi-temps qu'on fait de toute la compétition. J'espère que dans quelques jours, on réalisera quand même le chemin parcouru. Il y a 3 mois, on était au JO, on était championne olympique. Voilà, on est médaille d'argent. C'est pas horrible non plus.
Estelle Zeminko chez nos confrères de TF1.
On passe au football, Martin, avec la Coupe de France. C'est la qualification du PSG hier soir.
Oui, les Parisiens ont battu les amateurs de Fény-Aulnois, club de 5e division. Une petite victoire 3-0 avec une équipe remaniée. Mais Mbappé, toujours impérial. L'attaquant des Bleus a signé un doublé et impressionné l'entraîneur adverse, Jean Antouniès.
Ils sont venus, ils ont respecté notre équipe. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour marquer ce premier but. Mbappé fait l'unanimité, ouais. Je dirais. On voit bien qu'il fait partie du très très haut niveau. Il fait partie des 5 meilleurs joueurs au monde. Et il sera pas loin du ballon d'or de la fin de saison.
Jean Antouniès au micro Europe 1 de Cyril Delamorinerie.
Alors qui dit Coupe de France dit petit poussé Martin. Qui sont les surprises de cette cuvée 2021-2022?
Eh bien ils sont deux, hein. Linas Montlhéry, club de 5e division toujours, qui a magistralement sorti Angers hier, victoire 2-0. Et puis Bergerac, 4e division, qui a battu Metz au tir au but. Dans les autres résultats de ces 32e de finale, Marseille s'en sort contre Canet-Rocheville, victoire 4-1. Bordeaux écrase les Mahorais de Mzouazia, 10-0. Et première réussie pour Pascal Duprat, un tombeur de Lyon-la-Duchère, 1-0 avec Saint-Etienne.
Un mot de biathlon avec un feu d'artifice tricolore hier soir.
Oui, dernière journée de l'étape française de Coupe du Monde au Grand Bornand et les Bleus ont fait honneur au maillot. Julia Simon, 2e de la Mastart féminine avant l'apothéose et le doublé Jacqueline Fillon-Maillet chez les hommes. Émilien Jacqueline qui s'empare d'ailleurs du dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, juste devant son compatriote. Enfin, pour finir, un mot de natation avec la première médaille française aux Mondiaux en petit bassin à Abu Dhabi. Elle est pour la Marseillaise Beryl Gastaldello en argent sur 100 mètres 4 nage.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous vous sentez déprimé malgré cet excellent journal des sports, vous avez le moral dans les chaussettes, fatigué par cette pandémie interminable, et bien vous êtes loin d'être les seuls. Comment s'en sortir? On voit cela dans un instant avec la psychiatre Marion Le Boyer. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11. Votre invité Julien est professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Est et responsable du pôle psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires Henri Mondor à Créteil.
Bonjour Marion Le Boyer.
Bonjour.
Merci infiniment d'être en ligne avec nous ce matin. Je tenais à ce qu'on vous entende parce que nous sommes, je crois, nombreux à avoir pris un coup au moral ces derniers jours. Il faut dire que cette 5e vague du Covid tombe au plus mauvais moment pendant les fêtes de fin d'année. Résultat, on est nombreux à hésiter à rendre visite à nos proches de peur de les contaminer. Et quand on y va, c'est testé, masqué et avec la boule au ventre. Les rassemblements et feux d'artifice sont annulés un peu partout en France. Bref, ce n'est pas la joie, docteur. Vous la ressentez, cette déprime générale ?
Absolument, on la ressent et puis c'est vraiment un phénomène international. Tout le monde peut être touché par cette pandémie et par ses conséquences sur la santé mentale. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que très clairement, il y a des populations qui sont plus à risque, que sont les jeunes, les femmes, les personnes qui sont en situation de précarité économique. Et puis, il faut pas l'oublier, les personnes qui ont eu le Covid sont plus à risque de développer des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles cognitifs, parfois plusieurs mois après l'épisode infectieux.
27% des jeunes de 18 à 25 ans déclarent avoir eu des pensées suicidaires depuis le début de la crise. Ça monte à 35%. Pour ceux qui cherchent un emploi. Ce sont les résultats d'un sondage Ipsos réalisé le printemps dernier. Des résultats alarmants.
Absolument. Ces résultats que vous venez de citer, c'est ceux du sondage qui a été réalisé par Ipsos avec la Fondation Fondamentale à deux reprises, en décembre 2020 et puis à nouveau en septembre 2021. Et dans les deux cas, on trouve les mêmes constats. Les jeunes ont plus d'idées suicidaires et souvent ces idées suicidaires, c'est le témoin d'épisodes dépressifs qui sont non diagnostiqués et non pris en charge. Donc s'il y a un message ce matin à retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à consulter, à en parler autour de soi. Et c'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui leur est dédiée à ces étudiants, avec le soutien de la région Île-de-France, qui est une plateforme qui s'appelle Écoute étudiants Île-de-France et qui est vraiment important parce que c'est difficile de s'orienter quelquefois dans la prise en charge.
Alors vous l'avez dit, ce sondage est réalisé périodiquement. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que les résultats s'aggravent à mesure que la pandémie s'éternise. C'est ça la grande difficulté de cette crise, sa durée et peut-être même davantage ce va-et-vient permanent, ce chaud-froid permanent.
Alors si je peux me permettre, ça s'aggrave pas, mais par contre ce qui est inquiétant, c'est que ça reste avec des chiffres très élevés. Et effectivement, comme vous venez de le dire, cette pandémie, elle est anxiogène parce que on a de l'incertitude, parce que ça s'installe dans la durée, parce qu'on est inquiet pour soi et pour ses proches. Et ce qui est inquiétant, c'est aussi que notre système de santé n'est pas au mieux de sa forme, vous l'avez...
Ah, nous avons perdu le professeur Marion Le Boyer, qu'on va très probablement retrouver d'ici quelques minutes au téléphone. Elle nous expliquait qu'effectivement les chiffres sont alarmants en ce moment du côté des jeunes, avec 27% des jeunes de 18 à 25 ans qui ont des pensées suicidaires. Je crois que nous avons retrouvé le docteur Le Boyer. Est-ce que vous nous entendez, docteur ?
Oui, tout à fait.
Oui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que nos dirigeants et ceux qui les conseillent ont une part de responsabilité dans tout ça ? Je ne parle pas là des décisions qu'ils prennent, on les évaluera en temps voulu, mais de la manière de les communiquer. Parce qu'on nous dit, bonne nouvelle, on est proche du pic de la cinquième vague, mais attention, la sixième arrive déjà. On nous dit, allez prendre votre rappel de vaccin, tout en nous parlant déjà d'une quatrième dose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça joue dans cette fatigue générale ?
Alors c'est sûr que la manière de communiquer est anxiogène, mais à ce sujet, je voudrais juste réfléchir avec vous sur le fait qu'on vit une situation tout à fait inédite, qui est qu'on vit en direct une pandémie. Et donc on partage des informations, des désinformations, tout ça évolue extrêmement rapidement
mais
et est anxiogène.
Est-ce qu'il faut tout dire ?
Il faut expliquer et partager, mais aussi en essayant de montrer les bons côtés des choses, parce que, encore une fois, on a développé, grâce à la recherche et grâce à la science, des outils pour combattre cette pandémie très rapidement. Mais il faut apprendre à vivre cette pandémie en direct à la télévision, à la radio. On n'a jamais vécu ça avant.
Vous nous disiez il y a quelques minutes, il ne faut pas hésiter à aller consulter si on se sent un petit peu déprimé, si on a du mal à se lever le matin. Et si on nous répond, ce qui est le cas assez régulièrement, hein, désolé, je ne prends plus de nouveaux patients, ou alors on se donne rendez-vous en mars prochain, on fait quoi ? On vient vous voir à l'hôpital ?
Alors le premier point, je pense qu'il faut vraiment accepter l'idée que pas aller bien dans une période aussi difficile que celle qu'on vit, c'est tout à fait normal. Donc il faut reconnaître et se poser la question de savoir si on a une maladie ou une complication d'une Covid, en parler autour de soi sans avoir honte et sans se sentir coupable, et ne pas hésiter à consulter. On arrive à trouver un rendez-vous avec un médecin généraliste, avec un psychologue, avec un psychiatre, et on a développé toute une série de plateformes qui nous permettent d'avoir accès très rapidement à des consultations.
Docteur, vous venez de recevoir le Grand Prix de l'INSERM 2021 pour vos recherches sur les maladies psychiatriques et sur les conséquences du Covid sur la santé mentale. Félicitations tout d'abord. On sait que le Covid s'attaque principalement à nos poumons, mais est-ce qu'il cible également le cerveau ? Est-ce qu'il y laisse des traces ?
Alors absolument, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais aujourd'hui on pense que chez certains patients qui ont eu le Covid, il peut y avoir un impact direct de ce virus via les voies olfactives, et c'est probablement ça qui explique l'anosmie, qui est quand on perd le goût et l'odorat, et aussi via l'inflammation qui accompagne la réaction anti-infectieuse. Et on sait qu'il y a un lien très fort entre infection, inflammation et survenue de maladies mentales, comme la dépression qui, je le rappelle, peut survenir chez près de 30% des personnes qui ont eu le Covid.
Docteur, ça fait des années qu'avec certains de vos confrères, vous alertez sur le peu de moyens dont vous disposez, mais aussi le peu de considération qu'a la psychiatrie comparée à d'autres disciplines. Tout ça n'a pas changé, pas évolué, malgré les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont conclues il y a quelques semaines, fin septembre.
Alors c'est vrai qu'à l'occasion des assises de la psychiatrie fin septembre, c'était la première fois que le président de la République venait en personne prendre la parole sur la santé mentale et la psychiatrie, ce qui est un signe fort. Mmh. Il y a eu des intentions qui ont été annoncées, mais maintenant nous attendons d'en voir la réalité concrète, très clairement.
Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Marion Le Boyer d'avoir répondu à nos questions ce matin. J'aimerais citer le livre que vous venez de publier, Réinventer notre santé mentale avec la Covid-19, c'est aux éditions Odile Jacob. Vous dirigez par ailleurs la fondation fondamentale que vous avez citée au cours de cette interview, qui notamment récolte des dons pour financer la recherche sur les maladies psychiatriques. Très bonne journée, docteur, et belle fête à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h20 sur Europe 1. Les principaux titres avec Alban Le Prince.
Le pass sanitaire transformé en pass vaccinal. L'exécutif l'espère pour fin janvier, a confié hier Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Le QR code qui pourrait devenir obligatoire pour aller au bureau. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, reçoit les partenaires sociaux tout à l'heure pour en discuter. Les enfants pourront-ils se faire vacciner à partir de mercredi, comme souhaité par le gouvernement? La haute autorité de la santé rend en début d'après-midi son avis sur la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Et puis le berceau du foie gras dans le département des Landes. Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage de canards de Hastingues, a annoncé la préfecture hier.
On termine comme chaque matin avec votre partition, Omblin. Il nous a quitté le jour de Noël il y a tout juste 5 ans. Une cruelle ironie du destin puisque c'est à George Michael qu'on doit l'une des chansons les plus écoutées au moment des fêtes.
Un tube absolu, Julien, Last Christmas, qu'il écrit en 1984. George Michael est alors la moitié du duo Wham. Et l'histoire raconte que c'est chez ses parents, dans le Hertfordshire, au nord de Londres, qu'il trouve l'inspiration de la mélodie et des paroles.
C'est son double Andrew Ridgely qui se souvient de cet épisode majeur dans la courte carrière de Wham.
Ils étaient en train de se détendre dans le salon familial. La télévision diffusait un match de foot. Soudain, George Michael se lève et s'enferme dans la chambre de son enfance. Lorsqu'il revient au bout d'une heure environ, on aurait dit qu'il avait découvert de l'or, dit Andrew Ridgely. Miracle de Noël, Last Christmas de Wham a atteint pour la première fois la tête des meilleures ventes de singles au Royaume-Uni lors des fêtes l'an dernier, 36 ans après sa sortie.
Dans les années 80, Wham connaît un succès foudroyant en à peine 4 ans d'existence.
Oui, avec les meilleurs ingrédients de l'époque, des chansons qui font danser la planète tout entière, un sourire ultra bright, t-shirt au-dessus du nombril et les fameuses mitaines jaune fluo.
Une fois l'après-midi des débuts retombés, George Michael veut passer à autre chose.
Vous connaissez la chanson, hein, la décision a été difficile, nous restons de bons amis, c'est ce qu'écrit le chanteur dans une lettre publiée dans un magazine anglais. L'aventure se termine officiellement le 28 juin 1986 lors d'un concert au stade de Wembley devant plus de 72 000 personnes. Wham s'arrête en pleine gloire et laisse derrière lui des fans effondrés. George Michael ne va pas se faire désirer très longtemps. Un an plus tard, la superstar Aminette laisse place au chanteur sexy et sulfureux, adoubé par Madonna en personne. Il troque son pull rose contre un blouson de cuir et une boucle d'oreille en forme de crucifix.
Cette carrière solo qui démarre pour George Michael est un moyen de s'affirmer.
Oui, et d'exposer son véritable savoir-faire de compositeur grâce à des enregistrements épurés, une orchestration volontairement minimaliste. Pour son premier album, George Michael compose quasi tout seul. Et pour son premier single, il va jusqu'à créer une chanson dans l'esprit pop des années 50.
Oh, when that love.
gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because you gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith.
Faith, comme le nom du premier disque de George Michael, devenu le titre emblématique du début de sa deuxième existence artistique après Wham. George Michael nous a quittés le 25 décembre 2016.
Merci beaucoup, Omblin. La matinale se poursuit dans un instant avec Lionel Gougelot et Anissa Haddadi pour la météo. À tout de suite.
Europe Matin. Et il est 6h27, bonne matinée et à demain sur Europe 1.
On vous donne rendez-vous dès 5h d'ici là, on vous confie à l'excellent Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour les amis, bonjour Julien,
comment
bonjour Amblin.
Bonjour.
Bien, merci de m'accueillir.
Avec plaisir.
Bonjour à tous.